passage que nous connaissons bien. Matthieu chapitre... Bon, on va commencer avec Luc. Luc chapitre 1, verset 31. C'est l'annonciation C'est l'annonciation de la naissance de Jésus. Et l'ange dit à Marie, au verset 31, donc Luc 1, 31, il dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Voilà, si dans le message était inclus le choix du nom, Marie n'avait pas le choix. Elle ne pouvait pas nommer son premier-né. C'est l'ange qui a décidé et qui a dit « tu l'appelleras Jésus ». C'est parce que l'importance est donnée à ce nom, et il y a une raison. Le nom Jésus, c'est Yeshua, qui veut justement dire sauver, délivrer. Hein, donc tu l'appelleras celui qui délivre, tu l'appelleras le sauveur. Donc tu lui donneras ce nom de Jésus. Et donc Marie, avant d'être enceinte, eh bien déjà, elle a ce nom et elle s'en souvient et elle devra le donner. Bien sûr, elle est avertie, mais bon, en même temps, elle sait quelles sont les coutumes, et ce n'est pas la mère qui donne le nom, c'est le père, hein, dans les coutumes. Et donc, faudra un jour en parler à Joseph, mais le Seigneur en parlera. Et donc, c'est là que nous voyons aussi dans Matthieu chapitre 1, parce que Joseph commençait à se demander comment Marie a pu être enceinte, et avant qu'il ne... n'aille trop loin dans ses pensées, eh bien, Dieu, dans sa grâce, a envoyé un ange vers Joseph. Et donc, au verset 21, peut-être, on va commencer à lire au verset 20, Matthieu 1, verset 20, il nous dit « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ce que l'ange avait dit à Marie, il le dit aussi à Joseph. Vous lui donnerez, j'y tiens, il s'appellera Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il sauvera son peuple et il ne dit pas de ses ennemis ou des Romains d'autres choses, mais il le sauvera de ses péchés. Les péchés, c'est le gros problème, le plus grand problème, c'est la source de tous nos problèmes. Depuis que le péché est entré dans le monde, eh bien, beaucoup de choses se passent mal. Et donc, Dieu va s'intéresser à aller à la source du problème. Hein, donc, il va régler la question du péché. Je ne vais pas le développer, mais je mets ça comme ça dans vos pensées. Il y a le problème du péché, et puis après, il y a le problème des péchés. Il y a le problème du péché qui est à l'origine, et après, les péchés que nous commettons les uns et les autres, et ça, c'est aussi réglé à la croix. Hein, mais à la croix aussi, la première chose qui est réglée, c'est la question du péché. Hein, le péché qui entraîne la mort, qui a entraîné la mort depuis la chute. Et donc, justement, Dieu a parlé de cette préoccupation tout de suite avec Adam et Ève. Et donc, repartons dans Genèse, parce que ce matin, nous allons voir un peu les différentes appellations de Jésus. Et puis, bien sûr, chacune a une raison. Mais déjà, dans Genèse chapitre 3 et au verset 16, là, Dieu est en train de confronter Adam et Ève et leur dire « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Et alors Adam et Ève font ce que la nature pécheresse nous encourage de faire, c'est de mettre la faute sur l'autre. Hein, ça a commencé là, c'était la première, peut-être presque la première expression de la nature pécheresse, c'est de se défendre et mettre la faute sur l'autre. Tandis que la première expression de Dieu en Jésus-Christ, c'est de se donner et prendre sur soi nos fautes. Hein, celui qui est innocent a pris sur lui. Tandis que le péché a causé à l'homme, alors qu'il n'était pas innocent, c'est de vouloir mettre la faute sur un autre. Hein, donc c'est vraiment, on voit tout de suite, les choses sont claires. Et là, donc, Jésus les confronte et eux donnent des excuses, mais bon, ça ne change rien à ce que Dieu va dire, mais il propose une solution. Et au verset 15, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors, je ne sais pas trop ce que Ève ou Adam ont compris de cela. Hein, ils ont compris qu'il y avait quelque chose. En fait, la réponse à leur problème était là. Tout ce qu'ils ont compris, c'est que Satan sera vaincu, hein, mais en fait, Dieu était déjà en train d'exprimer la manière dont il allait régler le problème. Hein, le moyen de leur délivrance. Et donc maintenant, nous qui pouvons regarder en arrière, eh bien, nous comprenons ce qu'il voulait dire. Mais donc la première chose que Dieu donne, il dit, moi, je vais régler ce problème et à la source. Et donc celui qui est la cause de cela, on va faire justice et Satan sera vaincu. Et donc, c'est ce qui est arrivé à la croix. Maintenant, nous le savons, mais à l'époque, je ne sais pas trop ce qu'ils ont compris. Et c'est pour ça que Ève, en nommant ses fils, chaque fois, elle espérait que l'un de ses fils serait le sauveur. Mais ensuite, plus tard, donc dans Genèse 22, alors Dieu parle encore une fois à Moïse, à Abraham, pour lui dire... lui parler de ses intentions. Et après qu'Abraham ait eu offert son fils, déjà il l'a sacrifié dans son cœur et puis ensuite il allait l'exécuter, cet acte, mais Dieu l'a arrêté, il a dit non, je sais, parce que moi je regarde au cœur, je sais ce que tu as décidé dans ton cœur, c'est bon, ce que tu fais dans ton cœur c'est plus important que ce que tu fais dans les actes. Hein? Et donc il l'arrête et puis il pourvoit le bélier. Mais ensuite, au verset 18, justement, il nous parle d'une postérité, d'un descendant, et il nous donne l'étendue de la délivrance. Et donc il dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité ». Parce que tu as obéi à ma voix. Et donc à Adam et Ève, il leur donne le moyen par lequel le péché sera vaincu. Ici, Dieu donne à Moïse l'étendue. Il dit toutes les nations. Hein, je vous ai choisi, c'est de ta postérité, un de tes descendants. Mais en fait, la portée, hein, l'étendue sera toutes les nations. C'est ça, un salut qui sera à la disposition de tous, tous ceux qui le voudront. Et donc, et ce que nous voyons, c'est que, et ce que nous allons voir maintenant au travers de la Bible, c'est que Dieu est fidèle. Hein, ce qu'il dit à Adam et Ève, ce qu'il dira à Abraham, qui sont Adam et Ève, c'était les seuls, qui étaient croyants. Par la suite, bien sûr, il y aura Noé qui sera le seul croyant. Et puis là, maintenant, il y a Abraham qui est le seul. Il y a vraiment juste à peine quelqu'un. Mais Dieu garde et Dieu va réaliser. Et si c'est dans ces conditions-là, il arrive à garantir la réalisation de son projet, combien plus maintenant est-ce qu'il doit être en mesure de pouvoir réaliser ses projets en nous et pour nous. Et donc, nous allons essayer de voir quelques appellations du Seigneur, hein, puisque le Seigneur est celui qui, comme dira Paul, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et donc, dans Genèse, nous voyons qu'il commence, et il nous dit, il la rendra parfaite. Et quand vous lisez, bien sûr, l'Apocalypse, eh ben, vous voyez la réalisation de cette chose, même si ce n'est pas encore réalisé. Hein, voyons un peu ce que Dieu est en train de dire. Et donc, ici, dans Genèse, nous sommes dans Genèse 22, et il nous parle de... Il fait référence à Jésus, et il est appelé la postérité, hein, ta postérité, la postérité d'Abraham. C'est une appellation de Jésus. Il dit au verset 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Hein, c'est déjà, par cette appellation, il nous dit quelque chose. Il nous dit que ce sera un descendant d'Abraham, déjà. Donc, c'est déjà une famille humaine qui continue et qui existe encore aujourd'hui, bien sûr. Mais l'apôtre Paul, poussé par l'esprit, va encore un peu plus loin et nous explique, parce que là, nous, sur quelle base est-ce qu'on peut s'imaginer que c'est Jésus? Et donc, dans Galates, donc l'épître de Paul aux Galates, et au chapitre 3, verset 16, Galates, chapitre 3, verset 16, eh bien, l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, en fait même un argument. Et il nous dit, au verset 16, il dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Et il n'est pas dit aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. » Donc là, nous savons que ce que Dieu a promis à Abraham, eh bien, s'est réalisé en la personne de Christ. Il dit « cette descendance » dont il parle, à laquelle il fait référence, eh bien, c'est bien Jésus-Christ. Abraham représente ce peuple qui sera le véhicule par lequel Dieu va communiquer un message au monde. Ce peuple devra être le garant de ce message. Bon, alors, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons qu'ils n'ont pas toujours été fidèles. Mais c'est par ce peuple, non pas parce que, et comme Moïse leur dira, il dit, c'est pas parce que vous êtes meilleurs que les autres, ou que vous êtes un peuple puissant, plus puissant, ou que vous êtes plus fidèles que les autres, mais c'est seulement vous avez été choisis, et Dieu vous a confié cette tâche de porter mon message au monde. Et donc tous les prophètes sont issus de cette famille, de cette lignée. Et il n'y a aucun prophète qui ne soit pas de cette lignée. Hein. Donc c'était le plan de Dieu de le faire. Je sais que depuis il y a des gens qui ont des prophètes, mais ils sont pas de là. Hein. C'est Dieu a choisi, il a dit c'est de ta postérité et je t'ai choisi et il enverra. Et donc ils sont le véhicule pour donner non seulement le message, mais même pour porter le Sauveur. Hein, faut comprendre que Abraham, il est là et il dit tout ça c'est bien joli, mais ma femme elle est pas enceinte, même pas, hein, j'ai pas d'enfant. Et il dit Dieu, oui, je te fais confiance, hein, mais bon, mes yeux ne voient rien. Hein. Mais le plan est là. Il dit donc que c'est de la postérité d'Abraham et donc on ne veut pas s'écarter, ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs ou chez d'autres peuples ou dans notre culture, c'est dans la descendance d'Abraham. Donc première appellation, il est la postérité d'Abraham, il est la postérité, une postérité particulière, comme dit l'apôtre Paul. Ensuite, Deutéronome chapitre 18, donc là vous savez que c'est Moïse. Deutéronome chapitre 18. Et Jésus est appelé un prophète comme Moïse. Bon, ici, il ne dit pas Jésus, il nous dit au verset 15, donc Deutéronome chapitre 18, verset 15, il dira « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, et ça c'est très important, du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Et donc, par la bouche de Moïse, il dit « Il y a un prophète comme moi, comme Moïse. » Moïse était celui qui avait parlé avec Dieu, avec qui Dieu a parlé, c'est qui l'a transmis. C'est Moïse était celui, leur sauveur, hein, celui qui les a sortis de l'Égypte. Et tout ça, c'est, vous pourrez le développer vous-même un jour et de voir un peu comment le parallèle, hein, voir comment Moïse était un type de Christ. Mais là, première chose, et c'est conforme à ce qu'il a dit à Abraham, il est issu du milieu de toi, donc de cette lignée et pas une autre. Si on avait dit uniquement Abraham, on aurait pu penser, ben, est-ce que c'est Isaac ou est-ce que c'est Ismaël? Mais là, Moïse dit non, c'est issu de cette lignée-là, donc une descendance d'Isaac. Et comment est-ce qu'on sait qu'il s'agit là, il fait Jésus et l'accomplissement de cela? Eh bien, si nous regardons dans ce discours de Pierre, dans Actes chapitre 3, les Actes des apôtres, et je souligne cela parce que si vous avez des discussions avec nos amis les musulmans, eh bien, ils essayent de nous dire que là, c'était le... Moïse était en train d'annoncer la venue d'un certain prophète en Arabie, mais lui, il n'est pas de cette lignée, il ne correspond pas, il n'est pas un de leurs frères, et donc ce n'est pas possible. Hein, donc, ce n'est pas la peine de tirer les choses par les cheveux, il n'y en a pas. Mais Actes chapitre 3, et versets 22 et 23, alors... Pierre vient de guérir un homme paralytique et alors tout le monde vient le voir et voilà, il dit « qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire ? Jésus faisait ça tout le temps. Hein. » Mais il dit « j'ai un message pour vous. Hein. » Je vais commencer au verset 19. Parce qu'il vient de dire que Christ devait souffrir. Il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Et verset 22, Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Donc la première chose, eh bien, c'est justement l'accomplissement. Jésus est l'accomplissement de cette annonce. Ce prophète comme Moïse, eh bien, c'est bien Jésus-Christ. Et il nous dit, et quand il lui viendra, écoutez-le. Hein, bien sûr, vous vous souvenez, plus d'une fois, cette voix est venue du ciel, deux fois. En fait, dans la vie de Christ, à son baptême, et puis plus tard sur la montagne de Transfiguration, une voix dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Hein, » Donc c'est et je vous donne encore un truc, c'est l'importance de la parole. Hein, depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, la parole. Le fait de pouvoir communiquer par le langage. C'est une chose qui distingue l'homme de tous les êtres vivants sur Terre, c'est le pouvoir de communiquer en utilisant un langage. Mais ça correspond tout à fait à Dieu, parce que c'est un Dieu qui parle, qui veut parler, qui a toujours parlé. On le trouve en train de parler depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, c'est un Dieu qui parle. Et si c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu aussi qui peut entendre. Hein? Et pour ceux qui ont cette idée qu'ils ont un Dieu qui n'entend pas, non, Dieu est un Dieu, s'il parle, il entend. Et il dira aux enfants d'Israël, ils disent, Dieu n'est pas... le problème, ce n'est pas qu'il est dur d'oreille, mais c'est vos péchés qui sont un problème, hein, qui l'empêchent. Mais sinon, lui, il entend. Et donc ici, Jésus est aussi appelé le prophète comme Moïse, et il souligne le fait qu'il va parler, et qu'il ait la parole. Hein. Et donc, actuellement, nous devons prendre le temps de l'écouter. Hein. S'il dit, c'est beau de dire, oui, j'aime Jésus, oui, Jésus, et toutes sortes de choses, mais la chose, c'est qu'il vient pour parler, donc écoute-le. Hein, et nous devons prendre le temps. Et comment est-ce que l'on l'entend maintenant? C'est justement en lisant ses paroles et en mettant en pratique. Ensuite, dans Matthieu chapitre 1, et au verset 1 et au verset 20, Jésus est appelé le fils de David. Hein, c'est quand même... pourquoi insister sur cela? Pourquoi est-ce que Matthieu le souligne, hein, et donne de l'importance, et tout de suite au début de son évangile, et donc au chapitre 1 de Matthieu, verset 1, il dit généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Mais c'est important, on vient de le dire. T'es Abraham, tu auras une postérité. Et nous allons voir maintenant combien l'importance de David dans cette généalogie de Jésus. Au verset 20, il nous dit « Comme il pensait, hein, on a lu ce passage, comme il pensait, voici un ange du Seigneur qui lui apparu et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie. » Donc, et Jésus sera de la lignée de David par Joseph et aussi de par Marie. Hein, les deux, donc vous avez une généalogie ici dans Matthieu et une autre dans l'évangile de Luc. Mais dans 2 Samuel, chapitre 23, hein, je vous fais courir dans l'Ancien et Nouveau Testament, mais bon, c'est un tout. Hein, donc 2 Samuel, dans 2 Samuel, chapitre 23, c'est le roi Salomon, donc fils de David, le roi, qui est en train de faire la consécration du temple, et donc il fait référence à justement une promesse que Dieu a faite à David. Il dira dans 2 Samuel 23, les versets 1 à 7, et je lis, donc c'est les paroles, les dernières paroles de David. Oui, c'est Salomon. Ici, c'est les dernières paroles de David. Il dit, donc, parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob. Donc, il a été oint par Dieu. Il est reconnu par Dieu. Du chantre agréable à Dieu, donc celui qui a composé tous ces psaumes, hein, celui qui... Verset 2, l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, et en tout point bien réglé, offrant pleine sécurité. Mais il parle, là il fait mention, il dit, Dieu m'a fait une alliance éternelle. Il m'a promis quelque chose qui n'aura pas de fin. Hein, et Et il le reconnaît. Il a dit, je suis, je sais qui je suis, je sais que Dieu a parlé par moi, Dieu m'a choisi, Dieu m'a utilisé, et Dieu a fait avec moi une alliance éternelle. Et donc maintenant, regardons, Dieu avait promis à David qu'il aurait toujours un successeur sur le trône, et donc les passages auxquels je faisais référence tout à l'heure, c'était 1 Roi 9, verset 5, et 2 Chroniques 7, 18. Mais lisons dans le psaume 132, hein, où il dit la même chose, le psaume 132, et les versets 11, le psaume 132, verset 11, il dit « L'Éternel a juré la vérité à David, et il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. » Verset 12 dit « Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. » Donc et là, on a l'impression, on dit « Oui, tu auras... Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles, il y aura toujours un fruit de tes entrailles. » Et après, on a l'impression qu'il y a une condition. Est-ce que... Non, mais ça, c'est s'ils sont fidèles. Alors, bien sûr, nous, si nous avons un peu lu l'Ancien Testament, nous nous rendons compte qu'ils n'ont pas toujours été fidèles. Alors, est-ce que cela a remis en question la chose? Mais lisons le psaume 89. Lisons le psaume 89. Et on va lire les versets 30 à 38, le psaume 89, les versets 30 à 38, c'est l'alliance de Dieu avec David, et au verset 30 il dit « Je rendrai ta postérité éternelle et ton trône comme les jours des cieux ». Regardez ici, « Si tes fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David ? Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. » Donc il a dit, oui, j'ai promis, bien sûr qu'il faudrait que les fils soient fidèles, mais même s'ils ne le sont pas, et ils ne l'ont pas été, et pas plus que Israël n'a été fidèle, et pourtant le Sauveur est venu d'Israël, Dieu arrive à garantir. Les hommes ne peuvent pas perturber le plan de Dieu, ils ne peuvent pas l'annuler, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça ne changera rien, ce que Dieu a prévu se fera toujours. Hein? Et donc, même là, il a dit, non, non, mais ce que j'ai promis, hein, dans un sens. Promis, c'est quoi l'expression chose promise, chose Dieu, oui, c'est... Déjà chez les hommes, alors que ce n'est pas garanti. Mais chez Dieu, ça reste vrai. Et il dit, il n'y a pas de problème, il y aura toujours un descendant. Et donc, même si on a l'impression que les choses sont perdues, il n'y a pas de royaume aujourd'hui, qui est le roi ? En France, peut-être on sait encore qui pourrait être le roi, si on en voulait un. Mais... pour l'instant, on n'aime pas trop ça, mais pour Israël, c'est promis un descendant de David. Et en fait, Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 9 et verset 5, il nous parle de ce fils hein, qui sera né, hein, né de la Vierge. Et il nous dit au verset 9, verset 5, hein, Ésaïe 9, 5, il dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Regardez le verset 7, il nous dit « Le Seigneur envoie une parole à Jacob et il ne trompe pas. » C'est Dieu garde, celui qui est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, eh bien c'est justement celui que Dieu enverra. Vous voyez au verset 1 du chapitre Ésaïe 9, verset 1, il nous dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. » Et cette parole est reprise dans Matthieu chapitre 4, verset 15 et 16, où Jésus dit « Eh bien, cette parole s'accomplit. » Hein, Matthieu chapitre 4, versets 15 et 16, il dit justement « afin que s'accomplisse l'Écriture ». Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et dès ce moment, Jésus se leva et commença à prêcher. Ce psaume 9 est un psaume messianique qui annonce justement le Seigneur, la venue du Seigneur, et il nous parle de celui, et là, il est en train de montrer combien sa divinité, hein, il est appelé Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, et en même temps, eh bien, il est le fils de David, et il viendra, c'est garanti, même s'il y en a qui se perdent entre-temps, mais la descendance sera maintenue. Et c'est quand même extraordinaire, même de nos jours, combien ce peuple qui est juif, hein, qui pendant si longtemps a été sans une nation. En général, une nation, c'est associé à une terre. Et qui n'ont pas été là, qui n'ont pas été sans patrie pendant tant d'années, et qu'ils aient pu garder leur identité. Ce n'est pas parce qu'ils sont différents des autres, mais c'est parce que Dieu les a gardés. Parce que le Messie, le roi, le futur roi d'Israël, bien viendra de là. Hein, et c'est maintenu, Dieu garde sa promesse. Et je ne vais pas me lancer dans les prophéties, mais du reste, mais Dieu gardera sa promesse et elle s'accomplira. Et Jésus règnera sur ce peuple. On avance encore, on va pas très vite, hein, parce qu'on a tellement de versets à voir là. Jésus est aussi appelé dans le psaume chapitre 2, il est appelé fils de Dieu. Je vais essayer d'accélérer un petit peu, je vais donner les références. Et dans le psaume chapitre 2, au verset 6, il dit « C'est moi qui ai oint. » Au verset 7, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Bon, là, en lisant ça, ben, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Mais c'est pour cela qu'il est toujours bon de voir dans l'Ancien Testament. Et là, nous, dans le Nouveau Testament, et dans Actes chapitre 13, c'est Paul qui est en train de prêcher, Actes chapitre 13, versets 31 à 33. Eh bien, il dit, il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, il est en train de parler de Jésus, et qui sont maintenant ses témoins auprès de lui. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et donc là, bien nous voyons que justement, ce à quoi il faisait référence dans le psaume 2, eh bien, l'Esprit de Dieu l'a révélé à Paul en disant, c'est l'accomplissement. Il parlait de Jésus. Et dans Hébreux chapitre 1, il nous dira, mais à quel des anges est-ce que Dieu a jamais dit, tu es mon fils ? C'est un ange ne peut pas être le fils. Et c'est bien, dans Hébreux chapitre 5, verset 5, il nous dit que c'est bien à Jésus que ça a été adressé. Jésus est appelé fils, pas seulement dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, il est appelé fils. Parce qu'il y a cette relation. Hein, c'est, il nous dit, il viendra celui à qui il y aura cette relation. Tu es mon fils, tu es celui qui correspond à moi, hein, pleinement. Et dans Ésaïe 42, alors nous avons, là Jésus est appelé le serviteur. Ésaïe 42, et alors là on dit serviteur, ça ne fait pas très glorieux, mais justement c'est le rôle qu'il a rempli, le temps du passage de Jésus sur terre, il a été le serviteur. Et dans Ésaïe 42, au verset 1, il nous dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. » Et alors là, on se dit « C'est qui ? Hein ? Est-ce que c'est vraiment Jésus ? Comment je sais ?» Ben, vous lisez au verset 3, vous voyez, il nous dit, et ça, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité. Et là, bien sûr, Jésus fait référence à cela. Hein, il en parle dans Matthieu chapitre 12, et versets 14 à 21, et bien là, justement, il nous parle, il nous dit qu'il est le serviteur, il est l'accomplissement de cette prophétie. Matthieu chapitre 12 et verset 14, il dit « Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur le moyen de le faire périr, mais Jésus, voyant l'ayant su, s'éloigna. Une grande foule le suivit, il guérit des malades, il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi. » Mon bien-aimé, en qui j'ai mis mon plaisir, je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. Et donc, Jésus lui-même dit, je suis l'accomplissement de cette prophétie. Je suis le serviteur dont parlait Ésaïe. Et bien sûr, le passage que vous connaissez très bien, donc Ésaïe 52, et qui continue jusqu'à dans Ésaïe 53, et bien, dans Ésaïe 52, verset 13, il dit « Mon serviteur ». Et puis alors, on comprend tous que le texte continue dans 53, qui parle justement de la crucifixion de Christ. Et c'est pas n'importe qui a été crucifié, c'est Jésus-Christ qui est mort pour le péché du peuple. Hein, donc Jésus est appelé le serviteur. Et Jésus a été le serviteur jusqu'à la croix. Il a insisté qu'il voulait accomplir la volonté du Père. Dans le jardin de Gethsémané, alors que son corps voulait refuser la croix, mais il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Un serviteur, il fait la volonté du maître. S'il a envie, il n'a pas envie. Si son corps est fatigué, il n'est pas fatigué. Ça ne change rien. On fait la volonté du Père. Jésus a été un serviteur parfait. Et sa grande préoccupation, et il l'a mentionné plusieurs fois, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Hein, pour lui, il était le serviteur parfait jusqu'au bout. Et si Jésus a pu, lui qui est Dieu, a su être serviteur, alors nous qui sommes, et il est devenu homme pour pouvoir être serviteur, alors nous qui sommes déjà des humains, pourquoi est-ce que nous on aurait du mal à être des serviteurs du Seigneur, hein? Et alors là on veut, ah oui, oui, mais j'ai pas envie, bon, il m'a pas demandé, un serviteur il demande pas, hein? La question c'est de bien comprendre l'ordre et puis après de le faire, c'est tout. Hein, et Jésus a su être serviteur et il est un modèle pour nous. Et heureusement qu'il était serviteur parce que tout notre salut dépendait de ce rôle, cette position et cette fonction qu'il a eue. Et puis donc nous avons vu donc qu'il est appelé postérité d'Abraham. Nous avons vu qu'il est appelé le prophète comme Moïse. Nous avons vu qu'il est le fils de David, et donc roi, le côté roi. Et puis, nous avons vu qu'il est appelé le fils de Dieu, et déjà, c'est un accomplissement de l'Ancien Testament. Il est le serviteur, et il a rempli ce rôle, il a vécu le serviteur. Et le dernier que je vais mentionner, c'est où il est appelé le germe, où Dieu l'appelle son germe, ou son rejeton. Un rejeton, c'est lorsque vous coupez un arbre. Eh bien, à partir des racines, l'arbre repousse, c'est reprend vie, hein, et c'est un peu. Et donc, il parle de Jésus comme un rejeton. Ça n'a pas l'air très glorieux. Seulement, ça veut dire que les racines ne sont pas mortes, hein, et même si Israël, il y a eu des choses, et puis la royauté et tout cela, mais c'est pas la fin. L'homme peut détruire, l'homme peut faire, mais Dieu, la vie réapparaît. Et donc, il est appelé, et dans Zacharie, chapitre 3, verset 8, dans le chapitre 6, verset 12, et dans Ésaïe 4, 2, il est appelé, entre autres, donc je vais prendre Ésaïe 4, 2, il est appelé le germe, Ésaïe 4, et au verset 2, il dit, en ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Donc il est en train de parler maintenant prophétiquement de la fin des temps, donc c'est futur encore pour nous aujourd'hui, c'est encore futur, le temps où il récupérera un reste d'Israël et Jésus sera le roi. Hein? Donc il dit, c'est vrai qu'il y a un temps où on a l'impression que l'arbre est coupé, que ça y est, c'est terminé, c'est mort, c'est fini. Mais il dit, non, mais j'ai un germe. Et le germe apparaîtra. Et ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Et donc, c'est une promesse pour Israël. Mais si c'est une promesse pour Israël, nous sommes là, et c'est vrai. Mais regardez, dans Jérémie chapitre 23, Jérémie chapitre 23, là aussi, on a cette même expression où il parle des temps futurs, que Dieu, après que les rois et les prêtres et les prophètes auront abusé du peuple et écarté du peuple, eh bien, il nous dit, il viendra celui qui récupérera le reste. Et donc, au verset 5, donc chapitre 23, verset 5, il nous dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera et pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Donc c'est une espérance, c'est une promesse, le germe. On aura cru que tout est, mais il réapparaîtra. Et regardez même au verset 7, il nous dit, c'est pourquoi les jours viendront, dit l'Éternel, où l'on dit, ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter, du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison de David du pays des Septentrions et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Dis donc, et au verset 6, j'ai sauté le verset 6, il dit « En ces temps-là, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. » Il parle de cette justification, c'est « Oui, ils ont écarré, oui, ils ont été loin, tout ça, mais Dieu, eh bien, il se souvient d'eux, il rétablira. » Vous savez, c'est très important pour nous d'avoir toute cette histoire, cette terrible histoire d'Israël. Non pas parce que c'est beau à lire ou intéressant à lire, mais ça nous rassure. Parce que avec tout ce qu'ils ont fait, mais Dieu dit « Je garde mes promesses ». Et il dit « Ce que j'ai promis, le roi viendra, le rejeton sera là ». Et donc, ça me rassure moi aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, si jamais, parce que l'Église de Jésus-Christ, c'est pas toujours, ça n'a pas toujours été glorieux. Hein. Et même ça n'en est pas aujourd'hui. Et les enfants de Dieu ne sont pas toujours ce qu'ils devraient être. Mais ça ne change rien aux engagements de Dieu. Comme il garde ses promesses avec Israël, et nous pouvons les constater, eh bien, nous pouvons aussi savoir que c'est le même principe pour nous aujourd'hui. Nous pouvons toujours revenir. Israël, un jour, reviendra et reconnaîtra son Messie. Lisez Malachi et vous verrez ses promesses, cette réalisation. Et les nations viendront à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Dieu garde, mais c'est pas pour nous aussi. Il est capable de revenir. Et il dit l'Éternel notre justice. Et pour nous, eh bien, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, lui qui n'a point connu le péché est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu. Hein, donc ce même principe est là, et Dieu est un Dieu fidèle. Hein, je sais que ça a été compliqué ce matin, tout cela, les allers-retours, mais finalement c'est important. Parce que ce que Dieu a promis, tout ce qui était prophétique dans l'Ancien Testament, eh bien, s'accomplit dans le Nouveau Testament. Et Jésus-Christ, donc, quand nous sommes à Noël, eh bien, ne vous limitez pas à quelque chose comme des petits chocolats ou des petits Pères Noël ou des petits sapins, des trucs comme ça. Ça, c'est rien par rapport à la réalité. C'est que c'est extraordinaire parce que Dieu, ce qu'il a promis depuis Genèse, jusqu'à les grands prophètes, et même on aurait pu mentionner même des petits prophètes hein, qui parlaient prophétiquement de la venue de Jésus, parce que pour Dieu c'était une grande chose. Le fait que Jésus naisse et qu'il devienne notre sauveur, pour Dieu c'était l'accomplissement de son plus grand projet. Créer la terre et les cieux et l'univers, tout ça, c'est du détail pour lui. Mais ce qu'il a pu faire pour l'homme et en Jésus-Christ, ça c'était vraiment ce qu'il avait à cœur, son grand projet. Et il le réalise. Et ce qui est important pour nous, c'est que nous pouvons entrer dans ce projet-là. Alors, toutes ces appellations de Christ ne font que décrire tout ce qu'il est pour nous et ce qu'il veut être pour nous. Et il nous assure la continuité. On voit ce fil rouge qui traverse toute la Bible. Et je dis rouge parce que c'est un fil de sang et qui nous parle de ce sang qui est versé pour le péché mais par lequel le péché peut être pardonné. Et tout ça, c'est pour nous proposer un sauveur et un Seigneur qui désire notre bien. C'est vraiment, c'est ça le message essentiel de la Bible. Et Noël, eh bien, c'est Noël, le mot qui veut dire, qui vient du mot naissance, hein. Eh bien, c'est ça, c'est l'accomplissement des promesses. Donc, je crois que c'est le point le plus important. Et comme nous le disions tout à l'heure, c'est que Israël, l'histoire d'Israël est devenue terrible, et ils ont été dispersés de partout. Et quand Jésus est arrivé, c'était pas glorieux. Même s'il y avait un temple construit par Hérode, mais un homme de n'importe quoi. Mais Dieu garde sa parole. et le Sauveur est né. Et les anges se sont réjouis, non pas pour autre chose que sinon que le plan de Dieu s'est réalisé. Et ils trouvaient ça extraordinaire. Et donc, prenons le temps de vraiment méditer ces choses et de dire, mais Dieu, écoute, je te remercie pour cela. Et si tu as pu faire ça dans les conditions les plus difficiles, avec des êtres humains qui étaient complètement opposés, infidèles et tout cela, tu as pu réaliser ton plan, eh bien, je peux te faire confiance aujourd'hui. Je peux miser sur toi et je sais que mon salut est garanti parce que tu es un Dieu qui garde sa parole. Donc là, c'est seulement quelques appellations et ça suffit largement pour démontrer la chose. Et nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour cela. Que le Seigneur puisse, par sa parole, chasser tous les doutes qu'on pourrait avoir, qui viennent de ce qu'on sait de nous-mêmes ou ce qu'on sait du monde qui nous entoure, et qu'on puisse voir le nom de Jésus, qui représente tout ce que Dieu a pour l'être humain. Prions. Père Céleste, tout ça, pour nous, c'est bien compliqué. Et de pouvoir faire les liens entre toutes ces choses et ces paroles et les réalisations, mais pour toi, c'est l'essentiel de ce que tu voulais faire. C'est ton message et c'est pour ça que ces 66 livres sont encore ensemble. Et nous avons besoin de ce livre parce que tout se maintient, tout est lié. Et Seigneur, mais il n'y a aucun autre texte qui peut être ajouté. C'est le seul texte, c'est la seule parole. Et Seigneur, il est important pour nous, on a tellement l'habitude de prélever des choses par-ci, par-là, mais il est bon pour nous aussi de voir une fois où en fait tout le livre est une seule histoire. Et un seul projet et qui se réalise. Et Père, et nous voulons trouver notre sécurité, notre confiance et notre assurance et notre repos dans ces faits. Seigneur, fais ton œuvre, continue ton œuvre. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.